Il y a un auditeur qui m'écrit qui a quitté Lorraine à 6h30 ce matin, direction Saint-Jean-sur-Richelieu. Il vient d'arriver au pont Champlain.
Wow. Wow.
Ça ne s'arrange pas.
Non.
Hein? Ça ne s'arrange
non.
pas.
Des fois, ça m'énerve de rester à Montréal parce que c'est plein de troubles, mais je me dis que j'aime mieux ce trouble-là que d'habiter loin.
Premier sujet, messieurs les commissaires, les allers-retours en politique de Christian Dubé, élu, quitte, revient finalement et promet d'être là pour 4 ans.
Oui, bien tant mieux, ça nous rassure, parce que sa première élection, il avait quitté assez vite. On l'a entendu ce matin, c'est certainement un homme intelligent. On voyait dans ses réponses aussi qu'il était assez bon politique, politicien. Il avait des réponses sensées, crédibles sur ce qui s'est passé au moment où il était à la Caisse de dépôt et qui a eu à prendre des décisions ou à entériner, ou à faire, en tout cas, faisait partie de la Caisse de dépôt qui a pris des décisions, dans le cas du REM, par exemple, de faire appel à l'Inde pour la fabrication des wagons plutôt que de faire appel à Bombardier. Et ce qu'il disait n'est pas faux. C'était une décision. Le gouvernement peut demander, la Caisse peut refuser ou accepter. Moi, c'est donc tant mieux si la CAQ, dans les circonstances, se retrouve avec un candidat qui semble être un candidat de valeur. C'est clair, cependant, que quitter la Caisse puis quitter le salaire qui est là, c'est en contrepartie, il est assuré d'un poste de ministre, probablement conseil du Trésor ou ministre des Finances, un poste garanti. Donc, c'est rassurant. Encore faut-il que la CAQ gagne. Si jamais elle ne gagnait pas, il s'engage à rester là pour les 4 prochaines années. Donc, tout ça, il y a puis l'homme est, bon, semble compétent et plutôt sympathique, me semble posé. Alors, qu'est-ce qui me dérange là-dedans? Moi, je trouve qu'il y a 2 aspects qui sont dérangeants, mais je ne veux pas te laisser parler. Le premier, c'est ce transfert-là de la Caisse de dépôt au gouvernement. On sait qu'un des enjeux, ça a toujours été l'autonomie complète de la Caisse de dépôt, mais cependant, cette Caisse de dépôt, elle gère nos avoirs collectifs. Donc, le gouvernement est justifié quand il y a des projets qui sont développés ou des politiques adoptées par la Caisse de dépôt, d'avoir une opinion, de l'émettre. En même temps, ce qu'on protège absolument, ce qu'on a toujours voulu protéger, c'est l'espèce de distance entre la politique et la Caisse de dépôt. Quand on a un transfert de cette nature-là, un homme qui est en politique, qui est élu, qui s'en va comme premier vice-président de la Caisse et qui quitte la Caisse et qui revient au gouvernement en sachant qu'il va être nommé ministre, cette proximité-là, elle me dérange un peu. Ça, c'est le premier point. Je reviendrai sur l'autre après.
Moi, ce point-là sur la proximité, ça me dérange pas. Parce que c'est sûr que la Caisse, c'est la haute finance, mais c'est notre haute finance. Ça me dérangerait si M. Dubé était parti de l'Association des hydrocarbures pour aller après ça député, retourne à l'Association hydrocarbures, revient, va peut-être être ministre. Là, tu te dis, OK, il y a une proximité hallucinante entre des intérêts extrêmement particulier et les leviers de l'État. Dans le cas de la Caisse, ça ne me dérange pas tant que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose... Il n'y a rien d'illégal, hein? Il n'y a rien d'illégal dans ce que Christian Dubé a fait. Moi, je trouve même qu'il a pris des mesures pour atténuer, disons, la perception. Quand il est parti, il n'a pas pris sa prime de transition.
C'est vrai.
Et la prime de transition, juste le rappeler, là, c'est parfois très difficile pour des gens qui ont été... élus qui ont été députés ou ministres pendant longtemps, de retourner dans le privé pour plein de raisons. Fait que c'est une forme de d'argent de transition, de parachute. Dans son cas, il n'y en avait pas besoin. Dans son cas, il n'y en avait pas besoin, mais il aurait pu le prendre. C'était pas illégal.
Ben, 3 mois, ça aurait été un petit peu...
Mais il aurait pu. Ce que je dis, c'est qu'il ne l'a pas pris. Là où ça coûte cher aux Québécois, c'est sur l'élection partielle. Mais si on veut que ce soit interdit, il va falloir l'interdire, tout simplement. Parce que quand il va être élu, parce que je pense qu'il va être élu le 1er octobre, ça va faire un peu un backwash de piscine. Ça va légitimer cette décision-là de revenir à vie publique. Puis, pardonnez-moi si je suis facilement impressionnable, mais tu délaisses un salaire d'1 million à la Caisse pour aller en politique, retourner en politique, ou tu vas faire... Dans le pire des cas, 100 000. Dans le meilleur, c'est quoi un ministre? 140,
140? 130, bon. Je pense, oui. C'est 10 fois moins. Quoi.
Lancez-moi des roches. Mais je trouve qu'il y a quelque chose, chose de noble là-dedans. Il laisse beaucoup d'argent sur la table en prenant cette décision-là. C'est pas banal.
Moi, j'attaque pas l'homme, là, soyons clairs.
Non, non.
Parce qu'au contraire, les motifs, en tout cas, qu'il invoquait, sont plutôt d'une très belle noblesse. C'est-à-dire l'idée que, vers la fin de sa carrière, et visiblement sans besoin financier majeur, quelqu'un dit, ben moi, j'ai la passion du Québec tatouée dans le cœur, je m'en vais en politique pour servir les concitoyens. C'est exactement le motif que l'on recherche. Le problème n'est pas là. Il n'est pas individuel, il n'est pas lié à lui. Mais je repensais, par exemple, à l'élection de Trump. On sait qu'une des critiques d'Hillary, des Clinton et même d'une certaine partie d'Obama, c'est que les gens et de nombreuses personnes, là, on parle des États-Unis d'Amérique, des millions de gens avaient le sentiment et l'ont encore qu'ils sont dirigés par une élite qui est très loin d'eux. Et dans cette élite-là, et là, on va plus large, dans cette élite-là, les gens de pouvoir s'échangent le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils passent de la finance au pouvoir politique. Ils passent des hydrocarbures, des grandes corporations au poste de pouvoir. Donc, c'est comme s'il y avait une... Et c'est sûr qu'on veut avoir des dirigeants compétents, intelligents. Donc, on va aller chercher vers ceux qui ont déjà ces qualités-là ailleurs. Mais en même temps, là, il y a un sentiment que le pouvoir... Il y a un sentiment que les décisions intelligentes, sensées, bénéfiques à tous sont le fait d'une certaine partie de la population et que ça ne peut pas exister dans tous les milieux. Et moi, c'est juste ce malaise-là que je veux exprimer.
Attends, oui. Je ne suis pas sûr que je comprends. Oui. Tu veux dire quoi? Oui. Que c'est quelqu'un de la haute finance qui revient en politique?
Ben, je veux dire que souvent, quand tu es en haute finance, tu as accès au pouvoir politique. Quand tu es pouvoir politique, tu as accès à des postes, pas vraiment au niveau juridique, mais en tout cas, le pouvoir appartient à une minorité qu'on appelle l'élite. Et ce sentiment-là d'être dépossédé de ton pouvoir politique parce qu'il y a une élite qui te dirige, je trouve que c'est quelque chose.
Ben, en fait, j'entends ce que tu dis. C'est vrai que il y a toujours ce risque-là qu'au plus haut niveau de l'État, tu deviennes la cible, disons, de gens qui sont très friqués, très, très influents et qui ont accès à toi parce que ils sont des chefs d'entreprise, etc. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, tu as ce problème-là qui est très vif parce que aux États-Unis, tu peux contribuer la somme que tu veux au candidat que tu veux et bien souvent, sans mettre ton nom sur cette somme-là, on n'a pas l'équivalent au Canada. Et j'entends ce que tu dis. Des fois, il y a eu des cas où... T'as des maillages qui peuvent être inquiétants. Moi, quand Justin Trudeau avait dans son équipe un lobbyiste du nom de Dan Gagné, qui était un lobbyiste du pétrole, sincèrement, j'avais un malaise avant même qu'il soit exclu de la campagne parce que il commençait déjà, alors qu'il était avec Trudeau, le candidat, il commençait déjà à donner des conseils aux pétrolières. Moi, j'avais un malaise avant même cette affaire-là. Mais dans le cas de Christian Dubé, on n'est pas là. Je rappelle, là, voici un gars qui a fait carrière pour Cascade, je pense, d'une part. Après ça, s'en va, est à la Caisse de dépôt. C'est la haute finance, mais au moins la Caisse, c'est notre haute finance. Puis je l'entendais chez vous ce matin. Écoute, qu'on soit caquiste ou pas, tu veux quelqu'un qui a une vision, disons, de ce que devrait être la gestion des affaires internes de l'État comme ça.
Mais je veux dire pourquoi jamais... Il y aura un parti politique qui va déposer une loi là, ou modifier la loi pour forcer un député à rester à moins d'un cas de santé, là, parce que ça peut arriver à tout le monde.
Oui.
Puis, tu sais, hier, je voyais les autres là, qui étaient outrés. Le Parti québécois était outré, le Parti libéral était outré, tout le monde était outré. Il y a toujours quelqu'un qui l'a fait dans leur rang. Là.
Bien sûr.
M. Couillard est parti, il est allé au secteur privé, puis il est revenu en politique plusieurs années après. Bernard est un exemple. Puis Bernard, il se dit, moi, là, ma carrière politique est terminée.
Oh oui.
Puis là, je décide d'aller dans les médias. Là, c'est sûr que ressort l'argument, ouais, mais là, tu déclenches une élection.
Mais
c'est vrai.
C'est quoi? Aux États-Unis, là, il y a une mesure qui est, à mon sens, intelligente pour ça. John McCain, qui vient de décéder alors qu'il est sénateur de l'Arizona, le gouverneur de l'Arizona va nommer quelqu'un qui va devenir sénateur de l'Arizona
pour la fin du mandat.
Pour la fin du mandat. Et ça arrive régulièrement. Fait qu'on pourrait avoir quelque chose de comme ça. Pour moi, c'est pas un problème insurmontable.
On s'arrête pour la pause. Au retour, les sorties scolaires, telles qu'anticipées, il y en a moins que de prévu. Paraît que les millions sont là, mais qu'on les trouve pas.
Ouais. Ouais.
Le tunnel La Fontaine, un gars qui m'écrit à la blague, il se fait 2 ans que je suis parti, je devrais finir par arriver. C'est... Ah ouais.